Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire des textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre.
Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous couper, mon cher Nicolas. Oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
Le théâtre ne peut être pas que pompeux ?
Ah bah le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. Le théâtre c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens, il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit comme un miroir sur le public.
D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors.
Merci mon cher Nicolas. Nicolas !
Ça n'engage à rien.
Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission « Ça n'engage à rien » et qui j'espère vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
Round 10.
Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre poli, blanche, énorme, comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans plantait sa tente près du village et dans un grand vacarme d'instruments faisait part des nouvelles inventions. Un vieux gitan, qui répondait au nom de Melquiades, criait « Les choses ont une vie bien à elles. Il faut réveiller leur âme. » Toute la question est là.
Bienvenido, ladies and gentlemen. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous.
Salut les filles.
Ouais, salut mon Nico. Écoutez, je suis enchanté, ravi de vous retrouver pour cette 10e émission, déjà.
Ah, déjà ma gueule, dis donc, 10 et...
Émission que vous pouvez suivre en live sur Radio HDR 99.1 FM ou en balado-diffusion sur radiohdr.net. Alors, vous le savez, pour la saison 2016-2017, Ça n'engage à rien est en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen. Yes, I.
Bah ouais ma gueule.
Nous continuons donc notre immersion au cœur de la vie du CDN, à la rencontre des spectacles et artistes qu'ils accueillent. Pour ce nouvel opus, nous avons rencontré en avril, dans une loge du Théâtre des Deux Rives à Rouen, deux artistes associés du CDN, dirigés, je vous le rappelle, par David Bobet. J'ai nommé M. Édouard Alman, acrobate, et M. Ronan Chesneau, écrivain.
Rien que ça.
Pour le spectacle Inquiétude qui se jouait au Rexy à Mont-Saint-Aignan.
La classe !
À cette occasion, nous avons échangé avec eux sur le mode créatif de ce solo acrobatique et sur ce spectacle pas comme les autres, mais aussi sur leur parcours de vie et le métier qu'ils exercent. C'est un voyage riche, doux, ensemble, situé entre la ligne de l'équateur et le tropique du Cancer, auquel je vous convie dans ce dernier opus de la saison en partenariat, opus intitulé tout simplement « Inquiétude ».
Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or?
Bonjour, je m'appelle Édouard Alman. Je suis artiste de cirque et je co-dirige la compagnie El Núcleo avec Wilmer Marquez. Alors moi, je viens de Colombie. Je suis né à Bogota. Et du coup, avec Wilmer, parce que Avec Wilmer, on partage une longue histoire de travail, en fait. Wilmer et moi, on travaille ensemble depuis 18 ans. On s'est connus quand on était en 6e. Et puis, on a commencé le théâtre, les cirques, la danse, ensemble. Et du coup, on a fait notre petite formation en Colombie, autodidacte, parce qu'en Colombie, il n'y a pas d'école de cirque, donc la formation, elle est là où tu la trouves. Et nous, on l'a trouvée partout. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses, danse, théâtre, trapèze, cirque, enfin, de tout. Et puis, on est venu en France pour faire nos études au Centre National des Arts du Cirque, à Châlons-en-Champagne. C'était en 2008. On a intégré la 22e promotion, et puis on a fini en 2011. Et là, il a commencé l'histoire avec David et avec d'autres metteurs en scène avec lesquels on travaille en France. Je vis surtout en France, mais j'essaie d'aller une fois ou deux fois par an en Colombie, parce qu'on développe aussi d'autres projets là-bas. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de tenir le lien, en fait, entre la Colombie et la France.
Eh bien, je m'appelle Ronan Chesneau et je suis ici auteur, dramaturge, on dit dramaturge, j'écris pour des pièces de théâtre, des spectacles, j'écris aussi pour du cirque, j'écris pour de la danse. Enfin, j'écris partout dans les endroits du spectacle vivant où il y a des mots. Où on a besoin de mots, voilà. Donc ça peut être effectivement une pièce de théâtre pour des acteurs en bonne et due forme, de forme même un peu qui peut s'approcher d'un théâtre classique, ou ça peut être tout simplement plus un travail de documentation, d'écriture, de réécriture, de formalisation en texte pour de la parole, pour répondre à des commandes. Enfin, mon travail prend ces différentes formes-là.
En fait, cet endroit, je le connais. C'est une petite île au nord de la Colombie. Une île entourée des deux bras du fleuve Magdalena. On est à des milliers de kilomètres de Bogota sous la chaleur écrasante. Il doit faire 50 degrés. Là, il y a des chiens bizarres, avec leur queue recourbée sur le dos, et maigres comme des coyotes. Ici, la vie ne garantit rien à personne et se gagne au jour le jour. Une chauve-souris tourne sous l'œil d'un réverbère et mange des insectes géants. Je vois mon frère Alex dans une villa que nous a prêtée un ami de mon père. Une villa qui promet d'être belle quand on aura construit le premier étage. Alex a pris une mangue dans la cuisine et l'épluche avec les dents, doucement, sous les ventilateurs.
Et j'avais cette histoire dans mon village en Colombie, tout le parcours que j'ai fait, qui me semblait être pas anodin en fait, pas quelque chose de complètement banal. Et je me suis dit comment l'approcher en fait, comment m'approcher à cette histoire. Et du coup je me suis approché de Ronan pour qu'il m'aide en fait. Comment on pourrait raconter une histoire comme celle-ci? Est-ce qu'on pourrait raconter une histoire personnelle? Est-ce qu'on pourrait faire un spectacle autobiographique? Est-ce qu'on pourrait faire un spectacle complètement fantastique sur une histoire qui est la mienne mais qui pourrait être celle de n'importe qui? Et du coup ils m'ont aidé à cette réflexion. Et je voulais d'une, me retrouver seul sur un plateau et pour un spectacle. Parce que j'ai déjà fait des numéros où je suis seul. Enfin, j'ai fait des équilibres, des jonglages, des tissus. Des numéros, j'en ai fait beaucoup, beaucoup seul. Mais un spectacle, non. C'est la première fois. Et puis, je sentais quelque part que j'avais ma compagnie qui était solide. Techniquement, on va dire, logistiquement. On avait des partenaires. Kinsoy avait bien marché. Donc, j'avais 30 ans. Je venais d'avoir 30 ans. Je me suis dit, je pense que c'est le moment, en fait, de faire un spectacle. De me prouver à moi-même que je peux aussi parler de ça, en fait. Et du coup, c'était devenu une espèce de nécessité. Il fallait que je crée cet spectacle.
J'ai commencé ce travail précisément avec David Bobet. Il y a presque une vingtaine d'années maintenant. On s'est rencontrés à la fin des années 90. On était tout jeune à l'époque, enfin lui il était beau, pas moi, mais il était encore étudiant, moi j'avais terminé les miennes. On a vraiment commencé ensemble. David avait fait peut-être une mise en scène avant, et une ou deux. Il avait déjà dans son travail un rapport au texte et à la performance très singulier pour l'époque, pour le jeune homme qu'il était. C'est-à-dire qu'il centrait son travail sur l'acteur, sur la personne, quoi, sur les personnes qui mettaient sur scène. C'était ces personnes-là qui l'intéressaient, et ce qu'elles racontaient d'elles-mêmes plus que de choisir des comédiens au service de personnages et d'histoires dans un sens plus classique. Et donc ce rapport de liberté avec les comédiens, leurs paroles, leur univers, et sa liberté aussi avec le texte, c'est-à-dire qu'il avait déjà, sur des notamment une très jolie pièce que j'avais vue de lui, je crois sa première, il y avait déjà des montages de textes, il y avait les textes des comédiens écrits par eux se mélangeaient à de l'improvisation, mais aussi à des textes de Roland Barthes, à des textes d'Annie Ernaux. à des textes de Pasolini. Donc cette liberté par rapport à la textualité m'a vraiment plu beaucoup. Et je me suis dit, c'est ça qui me... C'est sollicitation aussi, bien sûr, mais c'est en voyant son travail que je me suis dit peut-être que... Ouais, peut-être qu'il y a une voie que je pourrais prendre. Je me cherchais à l'époque. Je voulais écrire, mais je ne savais pas trop quoi écrire. Et puis quand on ne sait pas quoi écrire, on a toujours envie d'écrire des romans. On n'a jamais vraiment envie d'écrire du théâtre, d'abord. Mais là, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que les romans, je n'y arriverai pas. Et ben, pourquoi pas ce théâtre-là? Pourquoi pas ne pas laisser David tout seul bricoler ses montages de textes, où les comédiens se débrouillent avec ça, mais leur filent un coup de main. Et puis du coup, de fil en aiguille, c'est devenu aussi mon écriture, quoi.
Je me souviens. Les voix. Dans le bureau de mon père. C'était aussi ma chambre. Un bureau sombre, au fond de la maison, qui sentait le cigare et le café. Mon père et ses amis avaient de longues discussions enflammées, que je ne comprenais pas. J'entendais leur voix. Ils parlaient sans doute de politique. Bien des années plus tard, à Mompox, je retrouve Juan, un des amis qui venait souvent chez nous. On est dans son patio, protégé du soleil, de la chaleur, par les manguiers immenses. Odeur de fruits mûrs et partout des papillons jaunes et le bruit des insectes. On est là, autour d'une table de jardin. Entre Juan et sa femme, il y a une chaise vide. Et je me dis que le frère de Juan pourrait être assis là, si la police du gouvernement ne l'avait pas assassiné il y a si longtemps. Et dans la beauté de cette île, Mompox, quelquefois c'est comme s'il y avait des restes de peur dans la beauté des arbres et des murs, dans l'ombre des maisons, dans les fenêtres blanches, grandes ouvertes, dans les sourires des gens. C'est fou comme ces choses que tu n'as pas vécues viennent te rattraper. Toujours.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison?
Parce qu'il admire ce village, en fait. Je l'admire, il est incroyable, il a une histoire qui est super belle. J'essaie de la résumer. Il était très important à l'époque de la colonisation espagnole, à la fin de la colonisation, c'est-à-dire au moment où il y avait des vrais échanges des marchandises. Il y a un fleuve qui s'appelle le Magdalena, qui part du centre du pays, des montagnes, de la cordillère des Andes, et qui traverse le pays, il va à la mer. Enfin, à l'océan Atlantique, et du coup, c'était une autoroute parfaite pour faire sortir tous les produits qui venaient du centre vers l'Europe, l'Espagne, le Portugal, la France, tout ça. Et du coup, ce village devient un petit port, un port en fait. Et puis, il y a plein des, je sais pas comment dire, des marquises, des ducs, des machins qui achètent des maisons, et puis qui construisent un centre-ville assez incroyable. On dirait, je sais pas, un vieux village de l'Espagne d'il y a 3 siècles, quoi. Très beau le village, du coup il connaît une gloire, si tu veux, un port, quoi. Les gens, voilà. C'était super riche, super intéressant. Et en fait, à un moment donné, la rivière, il change son lit. Et le village disparaît. Il tombe dans l'oubli. Et du coup, c'est un village qui a gardé cette espèce de beauté. Voilà, il n'a pas été abîmé, il n'a pas été détruit par le progrès. Il y a une notion très importante de l'eau dans ce village. Parce que l'eau a tout donné et tout quitté à ces villages. Et ça continue. Quand il pleut beaucoup, le village s'inonde. Voilà, il y a des inondations partout. Le centre-ville de Mompox est très particulier parce que tous les trottoirs font minimum 1 mètre. Parce que quand la rivière monte, la rivière rentre dans la ville. Et du coup, c'est pour ça que tous les trottoirs sont en hauteur. Et voilà, il y a des petits détails comme ça. Il est très particulier, ces villages.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. Por donde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta
que Dios me dio. Canuto de mí, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la acordeón, fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz.
Avec David, on s'est rencontrés lors de ma formation au Centre National des Arts du Cirque. Il venait en tant qu'intervenant, en fait. Il intervenait en théâtre. Donc je pense qu'on se connaît depuis 7 ans, peut-être. Et puis on travaille ensemble depuis 5 ans. Ouais, on a fait plusieurs collaborations. Et David, il a été aussi regard extérieur sur notre premier spectacle, Quién soy. C'est un grand complice de toutes les autres créations, de tout le travail qu'on a fait. Il a toujours été avec nous.
Ça va bien se passer, tu vas voir. Allez, viens, baby. Ça va aller. Tranquille, ouais, pas d'inquiétude. Regarde, on va sortir, on va sortir. Ça va aller, t'inquiète pas. On va sortir, on va prendre l'air et tout va bien se passer.
Moi, c'est la première fois que je suis artiste associé dans un théâtre, enfin un CDN. Du coup, c'est tout nouveau aussi pour moi. Même si ça fait 3 ans et puis qu'on arrive bientôt à la fin de cette collaboration. En fait, je ne sais pas ce que c'est que d'être un artiste associé, mais je sais ce que c'est que de travailler avec quelqu'un. Et donc, avec David, on a son projet, nous inviter en fait à participer dans le mouvement quotidien du théâtre, du CDN, du territoire. Donc, c'est ce que nous avons fait, en fait. Nous avons commencé à travailler dans tout ce qui est pédagogie, c'est-à-dire on a donné beaucoup d'ateliers, on est allé à la rencontre du public dans des lycées, dans des quartiers, dans des conservatoires, dans plein d'espaces différents. Moi, je me suis associé avec David dans son projet. Et son projet, c'est un projet comme ça qui est ambitieux et qui prend beaucoup de place, qui prend tout le territoire en fait, 3 villes, et qui va vraiment à la rencontre de toutes sortes de publics. Être à l'écoute de son directeur et du projet qu'il développe, et puis surtout être... comment dire, à l'initiative des choses. On a travaillé aussi, on travaille encore au CHU de Rouen, à l'hôpital, porter l'autre et prendre soin, qui tourne autour du porter, et autour des cadeaux acrobatiques, autour de la pédagogie, de la transmission. Ce projet-là, il est mené par Culture à l'hôpital, qui c'est un projet qui existe depuis plus de 10 ans et qui fait un très beau travail à l'hôpital. Et puis nous sommes arrivés, il y a un an et demi dans cette histoire. Une partie qu'on appelle des cadeaux acrobatiques, c'est-à-dire on va dans les chambres ou dans les couloirs et puis simplement on transforme l'espace en faisant de l'acrobatie, des portées. Un autre axe qui c'est le travail avec les 7 soignantes, parce que vous avez vu, les 7 soignantes, ils portent des corps, ils doivent porter quelqu'un du lit pour le mettre au brancard, des fauteuils au lit. Et bien nous aussi on fait que ça, on se porte, parce que ma technique c'est ça, c'est les portées acrobatiques. Donc comment on organise 2 corps pour qu'ils puissent tenir en équilibre tout en se faisant du bien. Et l'autre axe du projet à l'hôpital, c'est en pédopsychiatrie avec des filles et des garçons anorexiques. Là, c'est plus un travail en pédagogie, plus un travail dans lequel on va chercher à l'intérieur de leur petite tête des idées de mise en scène, des idées de musique, des idées en lumière, en scénographie. Et puis nous, on fait des mix avec ça, voilà. On leur donne la place, voilà, des créateurs, en fait. C'est un peu l'idée. À quoi ça sert? On va à la rencontre d'un public empêché, d'un espace qui n'est pas censé recevoir des spectacles vivants. On va transgresser le quotidien, le naturel. On va mettre un petit peu de vie, une autre vie différente. Et en toute simplicité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la thérapie. On n'est pas là pour que les gens aillent mieux, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils résistent mieux les traitements. Non, on est là pour partager, comme on le fait chaque soir quand on se met devant un public, on partage quelque chose, il y a déjà ça. Et ça, c'est super important.
Ça n'engage à rien.
Un auteur associé, si on le sollicite pas, s'il a pas lui-même ses propres projets, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pas grand-chose. Ma singularité, je dirais, moi, en tant qu'auteur, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de collègues, souvent amis d'ailleurs, qui écrivent des pièces comme moi, mais qui les publient aussi comme moi, mais qui sont souvent les seuls premiers initiateurs de leurs gestes créatifs et d'écriture. C'est-à-dire qu'ils ont un sujet en tête, ils ont une idée, ils écrivent la pièce. Bon, ils sont des fois de mèche avec un metteur en scène qui pressent, qui va monter la chose, mais voilà. Et puis, il la publie, puis quand il n'y a personne de pressenti, ben, ils attendent que ça soit monté par une compagnie. Et moi, je travaille effectivement essentiellement sur commande. Donc, je ne suis pas le premier moteur de ce que je produis. Il y a toujours le désir, un désir extérieur qui est à l'origine. Et mon boulot, c'est ça, c'est d'arriver à faire d'une nécessité qui vient de l'extérieur une nécessité intérieure. Et de m'emparer de ça et de faire mon chemin avec ça. Pour moi, c'était pas tellement écrit au départ, mais peut-être que c'était écrit dans la tête d'Edouard, je sais pas, mais on est partis tous en Colombie, il nous a fait ce cadeau immense de nous emmener tous avec lui dans ses valises, de nous faire découvrir ce pays, enfin, toute petite partie, mais avec un tas de gens extrêmement passionnants, enfin, d'histoires passionnantes. Donc on s'est imbibé de ça, mais on est partis un peu, j'ai compris au bout d'un moment, on est resté 3 semaines, qu'on était un petit peu parti en une sorte de quête ou d'enquête sur ce passé qu'il avait avec ce pays dans différents endroits. Et lui-même retrouvait des choses, j'ai le sentiment qu'il réapprenait des choses, qu'il avait des retours sur son enfance, sur lui, sur sa famille, et que des choses, il les découvrait en direct devant nous, et alors que nous découvrions tout. Mais lui, en plus, qui connaissait déjà bien, il découvrait aussi des choses. Moi, j'essaye toujours, quand on me fait une commande, de comprendre où veut aller la personne, des fois au-delà de ce qu'elle exprime réellement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent exactement, très précisément, ce qu'ils veulent. Par exemple, David Bowie, il en fait partie. Ce qui est assez pratique. Ce qui peut être aussi assez contraignant, un peu resserrant, ouais. Et il y a d'autres personnes qui, c'est pas qu'elles savent pas ce qu'elles veulent, c'est qu'elles lancent quelque chose, elles commencent elles-mêmes à le développer, et elles nous invitent à le développer avec elles. Et j'ai un sentiment que c'était un peu ce que m'a demandé Edouard, donc on a développé ça ensemble. Là, du coup, c'est plein de liberté, là, pour le coup. Et, ce qui n'est pas forcément plus facile non plus. Il s'est passé tellement de choses, Edouard a dû l'évoquer, la mort de Garcia Marquez, au moment où on met le pied sur le sol colombien, Garcia Marquez meurt. Donc il y a quand même, il parlait de réalisme magique tout à l'heure, Edouard, mais il y a eu quand même des rendez-vous assez incroyables, quoi. De trucs assez bluffants, quoi. La grande problématique pour moi, ça a été comment donner une idée de cette densité-là, quoi. De cette complexité-là. À la fois la vie de quelqu'un qui est riche, la personnalité de quelqu'un, son passé qui est comme le nôtre, chacun énigmatique pour lui-même. Comment la Colombie, enfin, tout ça, l'acrobatie, Edouard, enfin, comment parler de tout ça? Enfin, c'est impossible en 45 minutes. Alors qu'en plus, il faut qu'il fasse des acrobaties quand même. Il n'est pas là que pour se raconter. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné est venue cette histoire de fragments. Son histoire, elle est pleine de trous. Il raconte une histoire pleine de trous, quoi. Il y a des moments forts, il y a des impressions, il y a des choses qu'il retrouve. Il y a des fantômes qui sont autour de lui et puis qui viennent un petit peu, pour moi, le prendre par l'épaule et lui faire se ressouvenir les choses, retrouver les choses. Et il se les réapproprie comme ça. Et il revient au présent à la fin, de ce qu'il est là, pourquoi il est là en France, pourquoi et ce qu'il a à nous dire.
Voilà un rocking chair. C'est mon rocking chair. Il est comme celui de mon père Maximo, comme celui de mon grand-père Maximo, comme celui de mon cousin Maximiliano, comme celui de mon frère aîné Alexandre, comme celui de mon beau-frère François, comme celui de mon cousin. Celui-là, c'est le mien. Je me sens bien dedans. Ça m'aide à réfléchir. Dans ma famille aussi, ça a beaucoup aidé à réfléchir. Chez moi, dans le salon, il y en avait plein. Il n'y avait pas de chaises, de canapés, de tabourets. Non, des rocking chairs. Plein. Des grands, des petits, pour tout le monde. Le soir, on les sortait dans la rue et on les posait sur le trottoir. Et on regardait les gens passer.
Hé, vecino!
Et puis on restait là, à la fraîche. Un rocking chair, ça sert aussi à brasser l'air, à rester en mouvement, sans trop faire d'efforts.
Bam, je suis né à côté des rocking chairs. Ça a toujours été un truc. On ne me laissait pas jouer sur les rocking chairs quand j'étais petit. C'est comme quand on disait « Non, monte pas les pieds sur la chaise !» Et j'adorais jouer avec les rocking chairs, mais on ne laissait jamais. Donc, je pense que c'est un acte de rébellie. Voilà. Maintenant que je suis adulte, je m'achète un rocking chair et je joue avec. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a un peu de ça. Pourquoi le spectacle s'appelle Inquiétude, en fait? C'est directement lié au rocking chair. Quand on fait ces interviews, justement, en Colombie, il y avait Renaud et Sophie, qui entendaient souvent... Parce que du coup, on a interviewé mes profs d'école, et mes amis d'enfance et tout ça. Et tout le monde disait, non, mais Edouard, c'était un enfant inquiet, très inquiet. Et du coup, je leur expliquais que, en fait, être inquiet en Colombie, ça veut dire être hyperactif, inquieto. Et du coup, ils ont compris, ah, d'accord, en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'était ce qu'on, de l'idée qu'on a des inquiétudes en France. En français, en tout cas, quand on parle d'inquiétude, on parle de préoccupations. Voilà, il y a un souci, il y a un problème. Mais il y a aussi l'inquiétude artistique, que c'est elle qui te provoque, en fait, l'envie de faire des choses. Et du coup, on a commencé à jouer avec les mots, en fait. Inquiétude, des mouvements, on trouble l'inquiétude, inquiétude des choses qui te poussent à faire des choses, l'inquiétude artistique, l'inquiétude de développer quelque chose, l'inquiétude du monde. Du coup, ça a commencé à être intéressant. Et puis après, quand on a commencé à faire des recherches, un rocking chair, c'est en anglais, c'est un rocking chair. Véritablement, ça s'appelle un fauteuil à bascule ou une inquiétude. Qu'il allait faire du cirque. Enfin, il faut être fou pour que c'est croire artiste. Pour croire qu'on vit, que quand tu vis à la périphérie du monde, bah, tu l'observes mieux. Il faut être fou pour ça. Moi, je ne l'ai jamais décidé. Moi, je pense que c'est le cirque qui m'a choisi, en fait. Et le cirque m'a choisi par le physique, par la pratique physique. Parce que le quartier dans lequel je vivais en Colombie, c'était un quartier dans lequel il fallait montrer qu'est-ce que tu avais dans le ventre, en fait. Donc, il y avait quelque chose des solides, en fait, voilà, comme beaucoup de quartiers, finalement, dans le monde, en fait, ou comme partout, en fait, je veux dire. Si tu ne montres pas ce que tu es, ce que tu vends, bah, tu te feras marcher dessus, à chaque fois. Et je crois que, moi, le théâtre et tout ça est venu vraiment me chercher là-dedans, en fait, dans quelque chose de comment je me positionne, quel rôle je joue dans la société, quel rôle je joue dans ma famille. Et le cirque est venu à un moment précis dans lequel je faisais beaucoup de danse, mais je me perdais un petit peu dans voilà, justement, beaucoup de danse, beaucoup de street dance, beaucoup de hip-hop, beaucoup de machin. Breakdance. Et du coup, le cirque est venu pour me faire une espèce d'épée, en fait, entre le sport et l'art. Parce que je faisais beaucoup de gym aussi à l'époque. Et du coup, avec la gym, j'ai trouvé un truc qui n'était pas très juste par rapport à la compétition, à la concurrence. J'aimais pas trop ça, en fait. Et du coup, le cirque m'a dit, voilà, tu veux faire de l'art? Parce que voilà, il y avait mon côté artistique, un peu théâtre, écriture, poésie, tout ça. Et le sport. Et du coup, ça s'est lié parfaitement dans le cirque. En fait, avec le cirque, je peux faire les deux. Du sport et de l'artistique, en tout cas, parler de quelque chose d'intéressant. Et surtout, c'est une pratique physique. Donc, tu deviens solide. tu prends confiance en toi. Tu apprends que c'est quand tu travailles avec les autres que tu avances mieux. Tu apprends qu'il faut avoir confiance dans l'autre pour pouvoir te faire confiance à toi-même. En fait, c'est plutôt l'inverse. Tu te fais confiance à toi-même d'abord, et après tu peux te permettre, ou tu peux prétendre, en tout cas, faire confiance à quelqu'un d'autre. Et dans les cirques, c'est ça, en fait. Si tu n'as pas confiance en toi, il y a la chute qui arrive. Là, on parle de mahama, on parle de trapèze, on parle de tissu, on parle d'être suspendu à 9 mètres de hauteur, ce genre de choses. Donc voilà, le cirque, il est venu me chercher là, en fait. Et je ne l'ai pas choisi. Par les valeurs qu'il véhicule, le cirque m'a emmené dans ces chemins. Et puis un jour, j'ai commencé à travailler, et puis j'ai commencé à gagner de l'argent. Et ça a fait une grande différence. Moi, j'avais 15 ans, j'ai gagné déjà de l'argent en train de faire du cirque. Quand on vient d'un quartier un peu défavorisé, un peu compliqué, bah, ça fait tout de suite la différence. Et ça m'a permis de me payer mes études, ça m'a permis d'entrer à la fac, ça m'a permis de continuer des choses. Et puis, y avoir confiance dans mon groupe, parce qu'on était plusieurs. Enfin, il y avait Wilmer et moi, qui étaient un peu le centre de ces mouvements un peu circassiens artistiques dans le quartier. Mais n'empêche, on avait un groupe. Et ce groupe-là, il était solide. Et c'est pour cela que maintenant, on a créé Somos, donc ces gens qui étaient dans ce groupe-là sont venus en Europe faire des études en Belgique, comme nous l'avons fait en France, et qu'à la fin de leur formation, ont intégré notre compagnie et créé Somos, notre nouveau spectacle.
Ça n'engage à rien.
Je suis un technicien, c'est-à-dire que l'exécution des figures doit être bien pour moi, doit être bien, doit être parfaite. Les atterrissages, comment tu prends les sols, comment tu te suspends en l'air, comment tu voles, comment tu atterris, ça doit être parfait. Mais comment faire de ça quelque chose de, justement, de fluide, d'organique? Et du coup, je me suis mis à travailler, enfin, je travaille depuis longtemps comme ça, à sentir les mouvements comme quelque chose de normal et d'organique, comme quand on marche. C'est quand la marche humaine est simplement une succession de chutes permanentes. On chute et puis on se redresse. On chute et on se redresse. Ben, la courbatie est pareil, sauf que des fois, je ne me redresse pas. Mais je vais laisser tomber cette énergie, et je ne vais pas la couper, je vais voir où elle mène. Donc une acrobatie va s'enchaîner avec un mouvement qui va m'emmener au sol, qui va m'emmener à une espèce de roulade, qui va me fermer, soulever, sauter. C'est comment j'enchaîne l'énergie, comment je ne la coupe pas. Chercher dans mon corps et dans les organes intérieurs et extérieurs des façons de me déplacer, en fait, différentes. Donc je vais réinterpréter en permanence mes déplacements, tout en étant le plus relâché que possible, et en essayant d'être économe avec l'énergie. Pas du gaspillage. Et du coup, à ce moment-là, c'est plus juste pour moi. Et puis, ça me permet, pour être simple, de parler sur scène. On peut faire les choses en force ou en tonicité. C'est-à-dire, c'est être présent ou être en force. Donc, moi, j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive, mais d'être le plus détendu que possible et puis mettre de l'énergie là où il le faut et ne pas la gaspiller.
Que no te preocupes si no te aprueban cuando te...
par ailleurs, j'écris un roman, ce qu'on appelait le roman du CDN. Donc, c'est une sorte de feuilleton. Enfin, j'essaye de feuilletonner la chose. C'est-à-dire que tous les mois, je fournis un certain nombre de pages sur en retour, proche ou lointain, de ce qui s'est traversé au Centre dramatique. J'aurais aimé que les gens qui aient créé une attente, des gens de ce moment, du tiens, qu'est-ce qui va se publier, etc. Parce qu'il y a ça aussi, un peu le côté à suivre, quoi. Mais j'ai pas réussi parce que il se passe tellement de choses. Entre le temps que ça prend de vivre les choses ici, il se passe un milliard de choses chaque jour. En une heure, à côté, ils sont en train de faire un labo. Plus loin, il y a des relations publiques qui sont sans doute en train de rencontrer, en train de faire de la médiation, en train de parler des spectacles ou faire des rencontres, rencontrer des nouveaux partenaires, etc. Il y a ceux qui font de la com, il y a ceux qui sont en technique, qui sont à Dieppe Dalle en train de vider les décors. Enfin, voilà, il se passe 3 milliards de choses parce qu'on est nombreux, quoi. Et je suis parti du principe que j'avais pas envie de sacrifier aucun des aspects de ça. Mais c'est pas possible, on est forcément obligé de sacrifier des choses. Et puis du coup, je me suis un peu recentré sur moi, comment ces choses-là me traversaient moi, voilà, pour essayer de simplifier l'opération. Et puis raconter aussi comment témoigner de ça, parce que du coup, c'est compliqué. Je cite pas les gens, par exemple, dans le roman du CDN, je dis pas les noms des gens, mais les gens sont là quand même.
Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cette émission et de vous laisser aux mots d'Edouard et Ronan, je tiens à vous informer que vous pouvez retrouver les spectacles Inquiétude et Somos du 30 juin au 2 juillet, à l'occasion du festival Vivacité qui se déroulera dans les rues de Sotteville-lès-Rouen. Je ne peux que vous encourager à aller les applaudir bien fort.
Et en plus, c'est gratos.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, mesdames et messieurs, 1m80 pour 80 kg de muscles ou presque, il s'agit bien évidemment de mon homeboy, Mosquito.
Ah bon, ça fait plaisir, hein.
Un très grand merci à toute l'équipe du CDN pour cet opus et pour cette saison. Un merci tout spécial à Madame Nathalie Labaye pour son accompagnement magnifique. Nous lui souhaitons les vents les meilleurs. Un grand grand merci à toute l'équipe du spectacle Inquiétude, à Edouard Alman et Ronan Chesneau. Enfin, un énorme big up à mademoiselle Chris Sam qui a prêté sa voix et son talent au texte de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Et bien sûr, au désormais irremplaçable Philippe Nem qui a eu la gentillesse d'interpréter et d'enregistrer les différents textes de ce spectacle.
Ah ben c'est fini alors ?
Et non mon Nico, car j'ai deux grandes nouvelles à annoncer.
Ah ouais, ouais, quoi ?
La première, c'est que le partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen est renouvelé pour la saison prochaine.
Ouais ma gueule.
Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on vous laisse pas orphelin cet été, puisqu'il y a une série d'émissions qui arrivent en juillet et août sur un festival de cinéma un peu particulier qui s'est déroulé au Burkina Faso en février, le Kino Waga. Attention, ça va faire mal. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures et profitez. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Edouard.
Je vois que la Colombie et comme pas mal de pays d'Amérique du Sud ont marre en fait. Ils veulent renouveler les choses, ils veulent changer les choses. Cette guerre est fatigante en fait. Là, on fait des grands pas, on a fait un traité avec les FARC, un cessez-le-feu. Enfin, plein de choses qui sont en train de se mettre en place justement pour changer tout ça. Je sens un grand espoir. Je sens que la Colombie est un pays qui se développe. En même temps, c'est un pays super riche. Et en plus, qui est très intelligent, en fait. Les gens ne sont pas cons. Ils sont en train de faire vraiment bouger les choses. Ils sont en train de faire vraiment changer les choses. Il y a du chemin, certes. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a beaucoup de responsabilités de la part du gouvernement, comme d'habitude. Enfin, des gens qui ne veulent pas vraiment prendre les décisions qu'il faut. Mais ça n'empêche que les gens bougent et que les choses sont en train de, à mon sens, d'avancer. Avancer. Quoi qu'il arrive, les choses avancent.
Et je me suis dit, plus tard, si tu vis jusqu'à là, plus tard tu feras des choses inutiles, pourvu qu'elles soient belles. Des choses utiles, donc. Je me suis dit, lutte avec ce qui ne te demandera jamais de compte, avec ce qui ne sera jamais blessé par orgueil. Lutte avec ce qui n'exigera jamais de toi des réponses ici et maintenant, avec ce qui ne te demandera jamais des indices de soumission ou des preuves d'amour. Lutte avec ce qui ne viendra jamais t'enfoncer un couteau entre les côtes gratuitement. Bats-toi avec rien d'autre que ton propre corps et celui des autres. Prends la liberté d'écrire les pages devant toi et mets dedans tout ce que tu es, en désordre. Prends la liberté d'écrire les pages, toutes les pages devant toi comme tu le voudras. Qu'est-ce que tu as à perdre maintenant ? Rien à foutre.
Ahí te va.
calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Derecha, Casa, Baja, Ey, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle,
Carolina.
Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.